de l'élimination des déchets, etc. L'usine elle-même, elles peuvent être aussi sûres que le Titanic, oui.
Le comité lycéen anti-nucléaire s'est formé dernièrement, comportant de nombreux élèves venant des différents lycées de Chalon-sur-Saône. Pourquoi un tel comité s'est-il créé? Ce comité s'est formé sans aucune demande extérieure au milieu lycéen. En effet, nous sommes conscients des dangers d'un programme nucléaire démentiel. Ce programme laissait un palliatif dangereux et nous imposera ainsi qu'aux générations futures des sacrifices inutiles au nom d'une soi-disant indépendance nationale et aussi au nom d'impératifs économiques plus que douteux, et par impératifs économiques créés de toutes pièces pour la bonne marche de la société moderne de gaspillage et de conservation. EDF et le gouvernement Messmer nous ont imposé ce programme nucléaire coup furieux. Celui-ci n'est, paraît-il, qu'un programme de transition. Mais que restera-t-il de ce programme à notre génération de lycéens? EDF et Framatome nous promettent que la longévité d'une centrale est de 25 ans. Mais alors, après ces 25 ans, il ne restera plus qu'une ruine dangereuse, condamnant une région entière à cause de son émanation importante de radioactivité. Nous devrons nous résoudre à condamner cette région doit couvrir de béton ce déchet de la société. De plus, nous ne voulons pas d'une énergie dangereuse et incertaine. En effet, si de nombreux pépins se produisent dans les centrales, nous nous trouverons dans une situation de manque d'énergie. D'autre part, nucléaire nous implique et nous impliquera une société centralisée, hiérarchisée. L'emploi d'une énergie aussi dangereuse demandera une surveillance constante, donc des précautions policières efficaces. Alors, voilà la future société qui nous attend. Une société policière et militaire sous la surveillance des technocrates nucléaires et d'un gouvernement autoritaire pour lequel toute démocratie pleinement vécue ne pourra que constituer un danger potentiel. D'ailleurs, nous pouvons revoir cette société future. À Malville, par exemple, depuis le début de l'implantation d'un seul générateur, la surveillance policière a été extrêmement renforcée. Alors nous devons dès maintenant arrêter ce projet émanant d'un choix arbitraire, et ainsi nous empêcherons un gaspillage important de capitaux dans la société d'aujourd'hui, qui est déjà en véritable péril économique, et nous empêcherons également un gaspillage de vie humaine dans la société de demain. C'est pour ces raisons que nous devons, nous lycéens, nous engager aussi dans la lutte anti-nucléaire, car non seulement l'avenir de notre génération est en jeu, mais aussi l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Et ainsi, nous montrerons à ces messieurs de l'Église et du gouvernement que nous sommes conscients de leur inconscience face à un si grave danger. Alors, nous appelons tous les lycéens présents à se joindre à notre lutte avec la coordination anti-nucléaire du Val de Saône. Halte à l'industrie nucléaire dans un combat pour la vie. Voici notre et votre principal objectif. Alors, pour contacter les responsables, alors pour Mathia, vous contactez Viré Alain, terminal 16G2, son adresse est 71 240 rue de Saint-Julien-Saint-Cré, et puis moi, Serge Brachevilly, Fontaine-Lecœur, terminal 2 à 5, et mon adresse est Fontaine-au-Loup, bâtiment 1, Chalon-sur-Saône.
Il y a une dizaine d'années. Un sondage d'opinion très bien fait en Californie a prouvé que, bien sûr exactement, au moment du début de l'implantation nucléaire en Californie, 6%, 5 ou 6%, je ne sais pas exactement la proportion, mais c'est de l'ordre de 5 à 6%, la population était opposée à cette implantation. Au mois de mai 1976, il y a eu le projet de loi proposé par le peuple, car il y a, comme on dit, aux États-Unis, la possibilité de proposer des lois sans passer par le corps législatif. Et ce projet de loi était la proposition 15, qui a été votée au mois de mai, pour laquelle je me suis battu comme d'autres. Et nous avons obtenu, j'aurais été battu bien sûr, mais nous avons quand même obtenu 32% des voix contre l'énergie nucléaire. Au mois de novembre, dans d'autres États, l'Oregon et 4 autres États américains, le même, ou une proposition très analogue, la proposition 9, a été votée le même jour que l'élection du président, c'est-à-dire le 2 novembre. On a eu, dans ce cas très tard, entre 42 et 44% de voix. C'est-à-dire qu'on avait déjà gagné à peu près 10% entre mai et novembre. Et dans le Mississippi, on a eu plus de 50%, c'est-à-dire que dans le Mississippi, l'énergie nucléaire est bannie. Alors, on ne peut pas s'empêcher de voir que l'opinion publique est en train de rejeter cette absurdité. Au moins aux États-Unis. En France, comme je disais tout à l'heure, regardez le monde qui est ici. Il y a 5 ans, combien serions-nous été? 150, 200. Hein, pas plus. Il y a une augmentation spectaculaire, bien encore trop faible, de l'éveil de l'opinion publique. Et c'est tellement vrai que les autorités qui cherchent à implanter cette solution sans avoir demandé au public commencent à devenir nerveuses. Et c'est pour ça qu'ils font des brutalités, des bêtises. Et les gens qui ont peur, car ils commencent à voir qu'ils ont perdu la marque. Et par conséquent, ils réagissent comme une bête accueillie à un mur, de façon méchante, ce qu'ils font en ce moment. Mais au Canada, alors, pas au Québec, bien sûr, mais au Canada, dans l'ensemble, j'étais tout récemment à Ottawa, où j'ai fait une conférence justement sur ce même sujet, où il y avait à peu près 4000 professeurs dans la audience. Et le jour où je suis arrivé, un scandale venait d'éclater, dont vous avez certainement entendu parler, c'était celui des taux de vin nucléaire hein, au Canada. Le Canada, qui a fait d'ailleurs l'erreur d'équiper l'Inde, qui en a profité pour faire immédiatement exploser sa bombe, donc qui a la responsabilité de cette chose, le Canada a également vendu une usine nucléaire en Argentine et vient de vendre une usine nucléaire en Corée du Sud. Pas brillant. La France a fait le temps d'ailleurs, mais enfin, c'est pas brillant quand même. Alors, le scandale qui avait éclaté, c'est que pour arriver à vendre une centrale nucléaire en Corée du Sud, ils n'en ont absolument pas besoin. Hein. Ils avaient pris comme intermédiaire, comme vendeur, un individu d'origine suisse, un aventurier international, qui avait demandé 1% du prix de l'usine comme commission. On lui avait accordé, ça représentait quand même à peu près 5 millions de dollars. Hein. Et pour une commission, c'est pas mal, pour un individu tout seul, il n'y a pas de frais généraux. Bien, 5 millions de dollars, c'est 2,5 millions, tiens. Pas mal. Mais alors, en plus, on a découvert qu'il avait en plus touché 8 millions de dollars sans reçu et sans justification. C'était évidemment pour graisser la patte des autorités coréennes. Hein. Voilà le genre de morale auquel on arrive dans ces prestations. Que ce soit le Canada, que ce soit la France, que ce soit l'Amérique, c'est pareil, c'est une mafia absolument innommable. On vend des trucs qui feraient n'importe quoi. Les amis de la Terre veulent faire une intervention. Attendez, d'abord une seconde. Hein.
vrai, ça n'est pas vrai. Il ne faut pas chanter victoire encore. Mais il y a une tendance à réduire, oui. Et vous savez, c'est international. Vous avez la Commission royale britannique qui vient de terminer 2 ans de travaux, qui est terminé il y a 3 mois à peu près, ces travaux, qui était présidé par un avocat de l'énergie nucléaire des premières heures et qui a fini par recommander au gouvernement de mettre une sourdine au programme nucléaire. C'est encore une victoire nouvelle. Donc, si vous voulez, à l'échelon du monde, on voit bien que tout le monde est pris de panique. Ça commence à venir. Et c'est pas le moment pour nous de faire de la surenchère. Vraiment, ça tombe très mal. Je crois que les amis de la Terre veulent faire une intervention. Et comme j'aime beaucoup les amis de la Terre, je vous en prie.
Les amis de la Terre regroupent des membres dans 15 pays du monde. Ils luttent pour l'harmonisation de l'homme et son milieu naturel, contre le gaspillage et les pollutions. Les amis de la Terre, groupe du Val de Saône, a participé depuis le début à la lutte contre le projet de centrale nucléaire dans notre région. Réunion d'information, actions diverses sur le canton de Verdun, sur le Doubs et sur la région de Chalon, participation à la coordination du Val de Saône. Nous nous opposons au projet de centrale nucléaire dans notre région, ainsi qu'à la liaison Rhône-Rhin. En ce qui concerne le programme électronucléaire, nous demandons un moratoire de 5 années. C'est une erreur de parler, comme le font certains, d'un petit peu de nucléaire. Le nucléaire ayant vocation à l'exclusivité et étant irréversible. Le problème fondamental est celui de l'énergie massive, qui est déjà une pollution en elle-même. Les amis de la Terre, qui ont participé à la campagne de René Simon aux élections présidentielles en 1974, proposent un programme en 5 points. Travailler moins, consommer mieux, protection de la vie, autonomie, c'est-à-dire apprendre à se passer de l'État, réduction et révision du commerce international. Les amis de la Terre, groupe du Val de Saône, lancent l'idée d'une liste écologique aux élections municipales à Chalon. Cette liste, qui est en cours de constitution, a pour base la charte de Saint-Omer, qui a été réalisée par l'ensemble des groupes écologiques en décembre. Un programme écologique pour Chalon-sur-Saône est en préparation. Alors les personnes qui seront intéressées ou qui voudraient avoir plus d'informations peuvent aller au stand qui est à l'entrée.
Régional anti-nucléaire. Le mouvement régional anti-nucléaire existe depuis septembre 1975 et sa lutte contre l'implantation nucléaire dans notre région se fait autour d'actes écologiques et politiques. Nous nous battons contre les risques imposés aux populations de façon autoritaire sans que le moindre débat local ou national ait été favorisé. Les risques encourus sont pollution chimique, pollution thermique, pollution radioactive en fonctionnement normal, risque d'accident, utilisation énorme des espaces naturels, des équilibres et défiguration de l'écologie locale, déchets radioactifs laissés sur des siècles en héritage aux générations futures, mais aussi. Et cette difficile originalité peut-être d'une rame contre un choix de société basée sur la surconsommation et gaspillage industriel, sans tenir compte des ressources existantes, nous dénonçons. Nous dénonçons ce choix nucléaire qui n'a pour but et moteur que le profit, créé par une industrie qui ne fait qu'instaurer un marché artificiel sans créer d'emploi. Tout cela au détriment des conditions de sécurité des travailleurs du nucléaire. L'AGE, Marcoule, Framatome. Pour Framatome, nous sommes directement concernés puisqu'une usine de Framatome est présente à Chalon, à Saint-Marcel, très exactement. De leurs conditions de travail, travaillant seul. Qui nous concerne en premier lieu. De la survie de ce qui était jusqu'à l'heure des organismes publics et qui vont vers la privatisation, donc en accélérant les risques possibles, EDF, CEA. Nous dénonçons également la mise en place d'un dispositif politique.
financiers et militaires pour la surveillance des centrales de leurs produits, ce qui, d'une part, accentue leurs coûts exorbitants et exclut la prise en charge et le contrôle populaire. C'est pourquoi nous proposons de rechercher l'information là où elle se trouve et de la diffuser, afin de lutter contre le secret instauré en la matière et les mensonges des technocrates de l'IS et ses consorts. À ce propos, nous jugeons indispensable d'expliquer aux travailleurs concernés que notre lutte ne vise pas à supprimer leur emploi déjà souvent précaire, mais que, comme les travailleurs luttent pour leurs conditions de travail et de sécurité, nous leur demandons de rejoindre la lutte de la population pour son environnement, qui est le leur, en exigeant une autre politique énergétique du pouvoir, ce qui est possible. Nous proposons de nous élever contre des décisions prises sans consultation, sans la moindre démocratie, et d'exiger un moratoire de 5 ans pour pouvoir en décider. Nous refusons aussi que, sous prétexte d'acquérir gaspillage et bonheur, les capitalistes accumulent profit et pouvoir au détriment de la population et des travailleurs. Nous nous opposerons de toutes nos forces, par les moyens que nous jugerons opportuns, à ce projet tout furieux de faire de la vallée de la Saône une sorte de Ruhr. Dans l'immédiat, nous devons exiger l'arrêt des sondages EDF sur le site de Boyer, exiger des élus qu'ils interviennent avec tout leur pouvoir, entre guillemets, à tous les niveaux contre ce projet, qu'ils favorisent l'action des associations et leur donnent un pouvoir de consultation, exiger de pouvoir intervenir partout où EDF et consorts déversent leur publicité mensongère. Nous devons aussi faire en sorte que le débat, une fois amorcé, n'élude pas les côtés politiques, système policier, concentration de pouvoir, bureaucratie, choix énergétique, choix démocratique. Dénoncer la responsabilité écrasante du pouvoir actuel en exigeant des garanties de la gauche. Nous devons montrer notre force, EDF, dont le silence est éloquent et dit. Son choix dépend de nous bien plus que des résultats des sondages et autres études météorologiques. Nous devons lui dire clairement, par tous les moyens, que nous ne voulons pas de son turbogénérateur, pas plus d'ailleurs que de n'importe quel type de centrale. Oui. Puisse-t-elle comprendre vite qu'après les rassemblements, les conférences, les délégations, risque de venir le temps de la colère populaire.
Attendez, avant de redonner la parole au commandant Couteau et pour ne pas allonger ce débat par de longues présentations des associations, je voudrais dire en quelque sorte que la coordination du nucléaire du Val-de-Saône regroupe donc toutes les associations qui travaillent la main dans la main, viennent de vous être présentées et les associations qui agissent plus spécifiquement sur Salon, mais il faut mentionner également, et il y a un représentant de SNIC ici, le groupement du Val-de-Saône qui intervient essentiellement au niveau de CNC. Et qu'il existe également une association à Boyer, qui est l'association La Pierre-Fils, qui a été constituée depuis une année et qui est extrêmement active. Et puis il existe aussi le comité départemental de protection de la nature, que je représente ici, et qui se bat non seulement contre le nucléaire, mais aussi contre les grands problèmes posés en matière de protection de la nature, et notamment contre la liaison Rhône-Rhin. Vous pouvez donc, selon, disons, votre appartenance géographique, selon que vous habitez, Salon, CNC, Voyer ou Tournu, j'ai oublié le groupe SOS Nature Tournugeois, participer à la lutte dans l'une ou l'autre de ces associations, en sachant que de toute façon, leur action se trouve coordonnée par justement la coordination anti-nucléaire dont le siège est la CNC. Vous pouvez avoir tous ces renseignements à la sortie. Je crois qu'il y a un bureau avec tous les renseignements que vous pouvez souhaiter. Je précise d'ailleurs que la coordination anti-nucléaire de CNT, plus exactement la coordination anti-nucléaire, tient chaque lundi soir à 20h30 une réunion de travail à la salle du Bastion à Saint-Sélvran. Et là, je pense que c'est là, je crois, le meilleur moyen de contacter les différentes associations. Je vais maintenant passer la parole au commandant Cousteau qui répondra si de venir aux autres questions.
Décontaminer. Existe-t-il un moyen de décontaminer? Non. Mais
ça dépend. Si c'est local. Ah oui, un peu. Non. Attendez, il y a deux choses pour les gens différents. Si un individu isolé par un costume adéquat a été contaminé par des produits radioactifs, il existe des moyens pour le laver de cette contamination. Bien. Mais à ce moment-là, l'irradiation passe ailleurs. Bien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. Il y a un projet, un rêve, qui consiste à dire que peut-être un jour, on arrivera à neutraliser la radioactivité des éléments radioactifs par des moyens industriels. Pour le moment, ces moyens n'existent pas. Il est impossible de dire que c'est impossible, parce qu'il suffirait de trouver, il faudrait qu'on trouve une ouverture tout à fait nouvelle. Mais voilà, ce qui est important, c'est de penser au processus mental. Le processus mental de notre époque, c'est grave. C'est de dire, voyons, dès qu'une chose est possible, on la fait. Sans essayer d'évaluer les conséquences. Dès que technologiquement, une chose est possible, on la fait. Et dès qu'on a en perspective qu'une chose pourrait être trouvée, qu'une invention pourrait être faite, on fait un acte de foi en disant, eh ben, ça se matérialisera, donc on peut y aller. Que si par hasard cet acte de foi n'est pas vérifié, n'est pas confirmé, alors c'est la catastrophe. Jusqu'à présent, évidemment, quand il s'agissait de questions relativement locales, c'était pas très grave. Lorsque le Torrey Canyon a trouvé une marée noire, la première marée noire importante vers du nord, en Manche, enfin au sud de l'Irlande, cette marée noire, plutôt qu'une catastrophe locale, ne mettait pas en danger la vie de la planète. Bon, depuis, les tankers, les pétroliers, coulent comme des... Ça tombe comme des mouches. Hein. Ils se cassent en deux, ils s'échouent, ils explosent, c'est extraordinaire. Il s'est passé en 76, 6 fois plus de tonnage de pétroliers à couler qu'en 1974. En deux ans, on avait multiplié par 6 les accidents de pétrolier. C'est vraiment extraordinaire. Alors, tous ces accidents sont relativement locaux et temporaires. Ils ne sont pas souhaitables, ils sont même, il faut se battre contre eux, mais ils ne sont pas définitifs. Le seul domaine dans lequel nous n'avons pas le droit de faire une erreur, c'est le domaine nucléaire. Alors si les gens sont tellement sûrs qu'on ne fera jamais aucune erreur dans le domaine nucléaire, alors chapeau, parce que l'histoire de l'humanité n'a jamais confirmé un tel succès. Bon, les gens qui disent que la guerre d'uranium sont inutilisables, ça n'a pas de sens. Si on utilisait les centrales classiques, l'uranium serait utilisé à peu près en même temps que le pétrole. Le seul espoir de changer ça, c'est précisément les surgénérateurs. Ils n'ont jamais été vérifiés. Le seul surgénérateur qui fonctionnait jusqu'à présent, d'une façon industriel, c'est le surgénérateur Enrico Fermi qui a eu aux États-Unis, qui a eu pépin sur pépin et qui maintenant est fermé. Le Phoenix français a eu 4 accidents en 15 jours, je crois, et est arrêté pour le moment. Et malgré tout, ce qu'on fait est surgénérateur. C'est extravagant. Thank you.
Bon. Alors attendez, une petite seconde. Alors on va passer la parole au Jean Malvis, mais avant ça, je crois que il a été clair dans mon discours de tout à l'heure, j'étais pas pessimiste, puisque je vous ai montré une progression partout, en Angleterre, en Suède, en Amérique, et les exemples que vous avez ajoutés, que vous connaissez aussi. Je crois que vous êtes, vous n'avez pas été tout à fait exact, parce que le projet allemand n'est pas abandonné. Enfin, il est un peu repoussé, donc il y a eu une première petite victoire. Je vais donc passer la parole aux gens de Malvis qui vont répondre à votre question. Mais je vais aussi me retirer, parce que j'ai voyagé pas mal pour venir ici. Je vole demain pour Houston, où je vais justement me battre sur leur terrain, propre terrain pour une question nucléaire aussi. Par conséquent, je vais me retirer assez rapidement. Et avant de passer la parole aux gens de Malvis, peut-être, si vous mais ne me demandez des questions si vous en avez une très importante que vous avez oubliée. Oui.
Non.
Valable pour aujourd'hui. Par exemple, nous avons déterminé
le processus par lequel une civilisation qui avait épuisé les ressources écologiques d'un endroit se déplaçait ailleurs à une époque où c'était encore possible. Et par contre, nous avons étudié la civilisation de l'île de Pâques, il n'y avait pas de sortie, qui était obligée de rester sur l'île qu'elle était en train de détruire et qui s'est autodétruite elle-même par épuisement des ressources, qui est un petit modèle de ce qui se passe en ce moment sur la planète si on ne fait pas attention. Par conséquent, si vous voulez, les leçons écologiques de l'Antiquité sont tout à fait à la page et méritent les dépenses que nous avons faites.
Je voudrais vous demander, s'il vous
plaît. Oui, ah ben voilà. Voilà. Oui,
sûrement. Tout à l'heure, vous avez abordé le problème de la formation. Vous avez dit que la formation était mal faite. Puis là, dans la deuxième partie, vous avez laissé sous-entendre que vous étiez un peu optimiste. Je ne sais pas ce que vous entendez par optimiste. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que la majorité de la population, elle n'est pas informée. Elle est sous l'influence de ce que vous avez appelé les bobards. Bon, ben, comment vous, Cousteau, hein, l'homme Cousteau, bon, vous faites pour remédier à cela? Pas, moi, je pense que ce n'est pas parce que vous êtes réunis là, avec une certaine majorité de lycéens, de professeurs, de gens informés, que vous allez réussir à faire quelque chose. Ou encore vos amis écologistes qui écrivent dans des bouquins, dans des revues qui sont spécialisées, qui sont inabordables pratiquement. Alors comment comptez-vous faire pour informer la population? Quand je vous ai écouté à la télévision, j'ai jamais entendu parler du problème nucléaire. J'ai entendu la mer polluée, etc., etc. Vous n'avez jamais expliqué aux gens ce qu'était le problème du nucléaire. Il faut le faire, bon, bah, vous ne l'avez jamais fait. Vous le faites là, mais vous ne le faites pas quand vous avez un niveau d'audience beaucoup plus grand. Pourquoi?
Voilà. Alors, très bien. Bon, alors écoutez, je suis venu ici par dérogation à mes habitudes, car je ne fais plus de conférences pour me consacrer entièrement précisément à la télévision. Il est inexact de dire que je n'ai pas parlé du nucléaire à la télévision. Cette année, j'ai fait 2 heures de télévision sur le nucléaire. Et si vous n'avez pas écouté, ça prouve que ça ne touche pas tout le monde, mais ça en a touché quand même pas mal, puisqu'il y avait à peu près 7 millions de Français à l'écoute quand je parlais. Ça, c'est une chose. Nous avons fait récemment une série de 6 films de télévision sur l'environnement, les problèmes graves de l'environnement, qui n'ont plus rien à voir avec la mer, dont une demi-heure entièrement sur l'énergie et le nucléaire. Ça passe dans 105 pays. Nous avons créé aux États-Unis d'abord, en France c'est en cours de formation et en Italie c'est formé, c'est en cours d'études de formation au Japon et en Argentine, une fondation pour précisément la lutte pour la protection de l'environnement, incluant au premier rang de ses préoccupations le nucléaire. Cette fondation groupe déjà 160 000 membres, c'est-à-dire qu'elle se place au tout premier rang dans le monde des associations luttant contre le nucléaire. Et la seule différence que nous avons avec les autres fondations, c'est que nous croyons au progrès. Nous croyons qu'il est possible de combiner l'abandon du nucléaire et le progrès des sciences, du confort, de la qualité de la vie, sans aucune hésitation. C'est-à-dire, nous ne condamnons pas la science et la technologie comme étant les responsables, nous condamnons l'utilisation politique de cette science et de cette technologie. Et ça, nous le faisons sur le plan mondial, à une échelle qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Je suis venu ici simplement parce que c'est mon pays, je n'ai pas voulu me désintéresser d'un point sensible, et c'est pour ça que je suis venu ici, mais en général, je ne le fais pas.
Est-ce que vous pensez réellement qu'il faut être optimiste à l'heure actuelle? Moi, je ne pense pas. Vous avez dit « je suis optimiste » parce qu'il y a, enfin, il y a quelques années, on aurait été 150 dans cette salle. Bon, ben, c'est un moyen d'éviter le problème, tout simplement.
Non, enfin, on l'évite pas du tout, puisqu'on continue
à... Mais si, mais vous touchez qu'une partie de la population. Le nucléaire concerne tout le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure vous-même.
Quel est le moyen de toucher du monde qui est plus général que la télévision? Donnez-moi un. Moi, j'en connais pas. La télévision dans 105 pays, lorsque je fais une émission de télévision sur le nucléaire, et j'en ai fait plusieurs, je touche 150 millions d'individus sur Terre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus?
Personnellement, je connais rien sur l'atome, etc. Je connais rien.
Dites, hé, oh, mademoiselle, quand vous aurez embrasser parce que je suis très heureux que vous ayez posé ces questions.
Eh bien, je crois que, puisque nous sommes maintenant à la fin, nous arrivons maintenant à la fin de ce débat, je crois que nous ne pouvons pas mieux le clôturer, ce débat, qu'en donnant à la parole à ceux qui, non seulement ont fait de la formation, mais sont entrés aussi dans l'action, je veux dire, à ceux qui sont engagés dans la lutte contre le surrégénérateur de Malville.
Dernièrement, à Gigny-sur-Saône, nous avons parlé devant les agriculteurs. Nous avons vu combien les gens étaient déterminés ici, et nous avons bon espoir pour votre lutte. Nous sommes certains que tout ce que nous avons fait à Malville vous a servi. Et même si les travaux sont très avancés, nous continuons, nous ne baissons pas les bras. Nous avons notre journal et nous informons la population, tant bien que mal, face à l'EDF qui distribue de partout et gratuitement une information luxueuse. Oui, je sais pas, aussi. Nous avons réussi à implanter sur la région de très nombreux comités. Et ça, je pense que c'est très important. Nous avons pris contact avec la coordination du Val de Saône pour, en quelque sorte, faire profiter de notre expérience. Je crois que tout le monde doit être touché par le problème nucléaire qui est excessivement grave, qui met en péril les générations futures. Et je crois que c'est le travail de chacun de s'y mettre, hein, de s'informer, de tout rassembler, tout ce qui peut apporter de la connaissance là-dessus, et puis d'en faire part aux voisins, aux camarades de travail, et de bien persuader les gens que ce ne sera pas d'être riche, d'avoir des milliers de kilowattheures qui apportera le bonheur, mais ce sera la certitude d'avoir dans le futur la possibilité de respirer de l'air pur, de boire de l'eau propre, et de ne pas avoir la hantise des radiations qui pèsera pendant les siècles. C'est la question précise. Eh bien, nous avons organisé l'été dernier une manifestation. Je ne sais pas si vous avez été au courant. Il y avait à Morestel, la ville la plus proche de Malville, nous faisons les assises du surgénérateur supersémique. Et là, nous invitons tous les gens de bonne volonté à venir nous épauler, toutes les personnalités à venir aussi aider à pousser à la route. Je laisse la parole à M. Maurice François, agriculteur, à côté du surgénérateur.
Oui, j'habite exactement à 1500 mètres du surgénérateur. Vous voyez que c'est très près. J'ai même eu des terres enlevées parce qu'elles ne m'appartenaient pas, j'étais locataire. La commune les vendait et ma foi, il m'a fallu les laisser, si on peut dire. C'est surtout là le problème qu'il y a eu pour les agriculteurs de Malville. C'est qu'ils étaient les propriétaires, le plus gros propriétaire, c'était la commune de Cray, qui a vendu, et surtout sous la pression de leur dire, si vous ne vendez pas, on vous exproprie, donc vous n'avez plus qu'à partir. Autrement, il y a eu des manifestations faites quand même par les gens du pays, surtout le 10 juillet, où à ce moment-là, de Bouvesse, les manifestants, conseil municipal de Méfieux en tête, sont allés lever ce qu'ils appelaient le ghetto, que la commune de Méfieux a été bouclée pendant plus de 8 jours par les forces de police. Moi-même, habitant du pays, un peu en dehors, chaque fois que je voulais aller au village, il fallait montrer ma carte grise. Le poste de police était à 200 mètres de ma maison, il voyait sortir la voiture, et à chaque fois, il demandait ma carte grise. Ça prouve donc que la société nucléaire sera policière et comment. Donc, le 10 juillet, le conseil municipal de Mépieux, après une marche de 5 km, maire en tête et conseil municipal, sont allés lever ce ghetto, sont allés sur la place de la commune, accompagnés d'environ entre 5 et 10 000 manifestants. Et le soir, les quelques gens qui n'étaient pas du pays sont allés camper sur un site à 3 km de la centrale. Ils étaient environ 400 ou 500, et nous, habitants du pays, on est rentrés chez nous. Et à peu près une demi-heure après, les jeunes sont venus nous chercher en nous disant « les CRS attaquent ». Alors là, vraiment, on a vu les forces dites de l'ordre à l'œuvre. Eh bien, c'est pas très beau. Et d'ailleurs, je crois qu'ils se rendent compte de l'erreur qu'ils ont faite. Enfin, s'il y en a d'autres, si vous avez encore quelques questions à poser, nous sommes là pour vous répondre. Les syndicats d'exploitants, c'était en 73, n'ont pas voulu prendre position sur le nucléaire. Je le vois actuellement encore, ils veulent défendre les exploitants au point de vue seulement pécunier. On a beau leur dire, il faut d'abord défendre l'outil de travail. Ils pensent qu'il y aura expropriation et qu'on ne pourra plus rien dire, donc il faut défendre le prix maximum. C'est une faute énorme à ce sujet-là, mais il faut du temps pour que les gens prennent conscience. Je ne crois pas, parce que le 3 et le 4 juillet, il y avait 20 000 personnes. Les CRS n'ont pas tapé, ou pratiquement pas. Ils ont tapé quand il n'y avait plus grand monde, c'est-à-dire le 10 où il y avait 400 personnes. Parce que s'il y avait 100 ou 200 000 personnes à Malville au mois d'août de cet été, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils puissent cogner comme ils ont fait au mois de juillet.
Exactement.
Je voudrais intervenir sur la question du pouvoir. Vous avez dit le pouvoir est dans la salle. Je suis d'accord, le pouvoir, c'est les ouvriers, les gens du peuple qui sont ici dans la salle potentiellement. Je dis bien potentiellement parce que nous serons le pouvoir lorsque nous saurons quelle société nous voudrons. Parce que dans le débat, on a entendu dire qu'il faut exiger des garanties d'un tel, des gouvernants, des postulants au gouvernement. Mais en fait, est-ce qu'il faut essayer de donner des coups de pied au cul des vieux ânes qui ne veulent pas avancer, ou est-ce qu'il faut décider à changer de monture? Parce que les centrales nucléaires, c'est bien le projet de société, c'est bien la société qu'on veut qui est en jeu. Et c'est pas ni les Picard, ni les Chirac, ni les Mitterrand, les Marchais qui répondront à nos préoccupations. Parce que la question de la société, elle est très simple. En fait, le commandant Cousteau, tout à l'heure, a parlé de mafia. Effectivement, qui chasse les paysans depuis des années des campagnes? Qui fait de véritables déserts des campagnes? Qui entasse les ouvriers, les gens du peuple, dans des cages à lapins dans les villes? Qui nous oblige le dimanche à prendre des voitures pour aller respirer l'air pur et se casser la gueule, entre parenthèses? Eh bien, ces gens-là, on les connaît, c'est les trusts multinationaux, il faut les nommer les responsables. C'est Creuse-Loire. C'est Creuse-Loire. Creuse-Loire, que ça embarrasse pas aujourd'hui, vendre d'énergie en 14, c'était le premier marchand de canons. Alors ça ne gêne pas. Donc la question fondamentale, c'est si demain, la société qu'on veut, c'est une société qui va être débarrassée de cette mafia. C'est une société où les campagnes ne seront pas des déserts, où les campagnes seront rééquipées, où les paysans pourront travailler, où les villes ne seront pas des villes tentaculaires. Alors c'est ça la question. Et alors je voudrais que le commandant Cousteau donne sa position là-dessus, ou les responsables des organisations antinucléaires, parce que la force, c'est pas seulement une question de nom, parce qu'on peut être des milliers dans la rue et être faible comme un ver de terre qui rentre. La force, c'est savoir exactement ce qu'on veut, compter sur ses propres forces, marcher sur ses propres jambes et penser avec sa propre tête, et non pas faire confiance à des vieux hommes politiciens qu'on a déjà vus à l'œuvre et qui nous promettent mont et merveille à la veille de chaque élection, sachant que l'antinucléaire fait beaucoup aujourd'hui et qu'ils sont prêts aujourd'hui à parler de ça.
C'est un très bon orateur. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que, comme vous avez dit très justement, vous avez nommé tout le monde. Et effectivement, qu'on se tourne d'un bord ou de l'autre, tous les partis politiques existants se sont fourvoyés dans la même erreur. Donc on ne peut compter sur aucun d'eux. Par contre, oui, c'est à nous d'essayer de faire une pression extrêmement grave et importante dans ce domaine-là, d'abord parce que c'est une priorité numéro un. Néanmoins, on va poser une question très particulière. Qu'est-ce que je préconiserais ou qu'est-ce que je penserais pour changer l'état de choses actuel? Au fond, ce que vous avez caractérisé, c'est ce que j'ai dit une fois à la télévision, et j'ai jamais été aussi populaire avec les gens de Paris que dans la journée qui a suivi cette déclaration. J'ai fait pendant un quart d'heure la démonstration que les nos représentants ne nous représentent plus. Que le système actuel, qui est basé sur une consultation populaire tous les 5 ans, correspond à une époque où tous les gens étaient illettrés et déléguaient leur pouvoir à celui qui savait lire et écrire et qui savait se défendre auprès des autres. Aujourd'hui, c'est fini, ça n'est plus la même chose. Les gens ont des opinions, ils sont plus ou moins bien informés, mais quand même beaucoup mieux que le 19e siècle. Et ils exercent leur jugement d'une façon beaucoup plus efficace. Dans quelle mesure serons-nous capables d'élaborer une autre forme de société? Eh bien, pour vous dire la vérité, j'ai fait à titre de curiosité personnelle, alors là, je ne sais pas si c'est une conversation personnelle que j'avais, c'est pas une conférence. Mais je me suis amusé à essayer d'étudier à fond la plupart des formes de société qui ont existé dans le passé et qui existent aujourd'hui. Et je suis arrivé à la conclusion que toutes sont basées sur des constitutions ou sur des principes qui ont été bons à une certaine époque, mais qui sont toutes, sans exception, périmées. Il y a donc aujourd'hui une politique électronique à élaborer, une politique électronique dans laquelle les citoyens décideraient pratiquement de tout, toutes les semaines, par un vote électronique que les spécialistes prétendent pouvoir organiser à un prix qui n'est pas absolument prohibitif et qui est de toute façon beaucoup moins cher que l'énergie nucléaire. Il y a, si vous voulez, une étude que je fais faire à titre de luxe pour moi par 5 personnes, dont un spécialiste électronique, un juriste international, un professeur de droit et deux hommes de bonne volonté, deux citoyens de bonne volonté. Je ne sais pas si nous aboutirons à un système cohérent, mais il me semble quand même impossible de se désintéresser de ce problème que vous avez soulevé et qui est fondamental.
Excusez-moi, vous donnez une réponse technique à les questions politiques et économiques. Vous avez par exemple dit tout à l'heure, face à la voiture, qui est effectivement un gaspillage d'énergie considérable, et si on utilise des voitures, c'est parce que, par exemple, dans nos campagnes, on a liquidé les voies de chemin de fer, c'est ce qu'a fait l'EDF systématiquement, donc on est obligé de venir travailler à Chalon de 20 km, tous les matins, autant le soir, hein. Vous donnez comme solution le vidéotéléphone. Vous avez dit tout à l'heure aussi, dans votre intervention, que les industriels américains étaient beaucoup plus subtils que les industriels français.
Non, non, non. C'est audacieux.
Oui, à la limite, ça pourrait vouloir dire qu'il y a de mauvais managers en France. Je sais bien que les capitalistes français ont toujours été particulièrement abrutis, mais pas si abrutis quand ça consiste à pomper du profit et exploiter les ouvriers et le peuple.
Faisons pas d'effet de mots. Les industriels français ne sont pas des abrutis. Ce sont peut-être des gens redoutables, mais ce ne sont pas des abrutis. Ils savent ce qu'ils font pour eux et pour eux.